Les deux orphelines, cinquième partie, chapitre 8. Ainsi que l'avait annoncé Picard, le départ du chevalier de Vaudrey devait s'effectuer dès le lendemain. On a vu avec quelle résignation Henriette avait supporté le coup qui la frappait en plein cœur. Le docteur Hébert n'avait rien dit, en jugeant de la douleur que la jeune fille ne dissimulait ainsi qu'à l'aide d'un rare courage. Il réfléchissait, le digne homme, à ce qu'il pourrait trouver pour apaiser ses souffrances morales. Quant au chevalier, il s'était retiré l'âme bouleversée et pleine d'angoisse. Maintenant, il ne lui restait plus, pensait-il, qu'à se fier à la destinée, du soin de le rapprocher plus tard de celle qu'il n'avait retrouvée que pour en être séparé de nouveau, et peut-être pour toujours. Il avait donné sa parole au comte de Lignières de partir. Il voulut se montrer à la hauteur du sacrifice qu'il s'imposait. C'est donc avec la volonté ferme de ne s'abandonner à aucune défaillance que le lendemain, il se présentait à l'hôtel de Lignières afin de prendre congé du comte et faire ses adieux à Diane. Picard l'avait accompagné. Quand le chevalier et le vieux serviteur se présentèrent à l'hôtel du lieutenant de police, tout le monde y était déjà sur pied, comme si chacun l'eût attendu pour voir une fois encore celui qui allait partir avec le général de Lafayette. C'est qu'il n'était question dans Paris que de la campagne qu'allait entreprendre le marquis. Le général était devenu l'homme populaire par excellence, et son nom, comme celui du grand patriote Washington, était dans toutes les bouches. Les racolements pour la petite armée qui allait combattre pour l'indépendance américaine se faisait ouvertement et les volontaires se présentaient d'eux-mêmes avec enthousiasme. Dans les cabarets, ceux qui avaient déjà pris du service sous les ordres du marquis de Lafayette entraînaient les camarades. D'autre part, le bruit s'était répandu que beaucoup de gentilshommes avaient demandé et obtenu des commandements. Il n'en fallait pas davantage pour que l'esprit chevaleresque des Français s'enthousiasmât pour cette guerre dans un pays nouveau dont on disait merveille. Aussi, en apprenant que le chevalier de Vaudrey allait partir, tous les domestiques de l'hôtel de Lignières, ainsi que les employés et les agents attachés à la lieutenance de police, avaient-ils voulu le voir, le féliciter et lui souhaiter bon voyage, succès et gloire. Roger, très ému de cette manifestation affectueuse, salua tout ce monde qui se pressait autour de lui. Il dut se dérober aux bons souhaits qu'on lui adressait, prétextant de ce que le comte de Lignières l'attendait. Faisant signe à Picard de l'attendre, il pénétra dans l'antichambre des appartements particuliers du lieutenant de police et se fit annoncer. Picard bénéficia alors à lui seul de tout l'enthousiasme de la valetaille et des agents. Le vieux serviteur, malgré toutes les aventures qu'il avait courues depuis qu'il s'était lié à la fortune du chevalier, n'avait rien perdu de l'originalité de son caractère ni de ses idées un peu subversives. C'était toujours le même homme dévoué à son jeune maître jusqu'à risquer de se faire chasser par le lieutenant de police et de se faire bâtonner par les personnes qui jouaient au profit des intérêts du chevalier. Il s'était, ainsi qu'on l'a vu, creusé la cervelle à trouver des ingéniosités de toutes sortes. Quelquefois même, son imagination avait fait merveille. Détestable valet en ce qui concernait le service du comte de Lignières, c'était bien le plus excellent cœur, tout de sacrifice et de dévouement, ainsi qu'il en avait donné la preuve alors qu'il s'agissait du chevalier. Son équipée de la Bastille, bien que tenue aussi secrète que possible, n'avait pas été toutefois sans lui créer une certaine célébrité parmi les gens de service des grandes maisons. Aussi, en le voyant en tenue de voyage et portant le porte-manteau du chevalier, avait-on bien vite fait cercle autour de lui. « Vous voilà donc parti, monsieur Picard ?» disait l'un. « Et cette fois, » ajoutait un autre, vous allez vous battre pour de bon, comme de véritables soldats. » Ah, c'est crâne, ça, surenchérissait une des jeunes femmes de chambre de la comtesse, laquelle braquait ses petits yeux narquois sur le visage de Picard. Moi, j'aime les hommes braves, et je suis enchantée de voir partir aussi mon amoureux. J'espère bien qu'il va revenir général comme le marquis de Lafayette. Et quel grade a-t-il jusqu'à cette heure? Demanda Picard d'un air capable. Il est trompette, fit gravement la soubrette. Monsieur Marest interrompit par son apparition soudaine, au milieu du groupe, la conversation qui commençait à marcher bon train sur le ton de la plaisanterie. Il n'était pas très aimé, le principal agent du lieutenant de police. On le trouvait un peu trop ambitieux. Depuis l'insuccès de ses recherches à l'effet de trouver le chevalier de Vaudrey, on ne lui ménageait pas les critiques et les plaisanteries. Le policier avait conservé un fond de rancune à Picard, qu'il avait joué et s'était montré plus habile que lui. Aussi, voyant que l'on entourait et félicitait le vieux serviteur de M. de Lignières, Marest avait-il voulu mettre un peu de fiel dans la joie du bonhomme. « Où allons-nous donc, dans cet attirail, M. Picard? Est-ce que par hasard vous vous mettriez en voyage pour la Bastille ?» Et tous les assistants de rire de la mine que faisaient les deux hommes se toisant l'un l'autre. « Dans ce cas, M. Picard, reprit l'agent, je vous annoncerai que vous ne vous trouverez plus comme autrefois en pays de connaissance. » Et il ajouta avec un sourire qu'il voulait rendre narquois. « Votre ami Rumignac n'est plus geôlier. Non, 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 non. On lui a trouvé un autre emploi, plus facile que de garder les condamnés d'État. Alors, mon pauvre monsieur Picard, la vie ne vous paraîtra plus aussi agréable, maintenant que vous n'aurez plus votre ami Rumignac pour causer avec vous. » Le valet haussa les épaules. « Qui est-ce qui vous a dit que je comptais entrer à la Bastille ?»« Oh, pas comme prisonnier, monsieur Picard, » fit l'agent. « Mais j'avais entendu raconter dans les bureaux que le gouverneur du donjon vous avait réclamé comme geôlier pour remplacer cet excellent Rumignac. »« Moi ?» s'écria Picard qui commençait à croire que le policier parlait sérieusement. « Pourquoi pas ? Vous avez montré ce dont vous êtes capable et l'on croit aujourd'hui que vous êtes rusé comme potence. Or, quand on trouve le moyen de faire évader les prisonniers, c'est qu'on est ferré sur toutes les finesses, toutes les habiletés, toutes les ruses des coquins. Par conséquent, on est capable de les déjouer. C'est vrai, c'est vrai, dirent les assistants. Aussi, reprit M. Marest, il n'y a rien d'étonnant à ce que le gouverneur de la Bastille ait songé à vous pour remplacer ce Rumignac que vous avez réussi à berner si habilement. Mais vous vous trompez. « Ce n'est pas possible !» balbutia Picard. « Mon maître en saurait bien quelque chose, et il m'aurait prévenu. »« Quel maître ?» demanda ironiquement l'agent. « Mais monsieur le chevalier, pardienne !»« Et monseigneur le lieutenant de police, vous le prenez donc pour rien, monsieur Picard ?»« Mais je n'ai pas dit ça !»« Je n'ai pas dit ça !» cria le domestique en donnant des signes comiques d'effarement. J'ai le plus grand, le plus profond, le plus solennel respect pour Monseigneur. Je suis son humble et dévoué serviteur. Tiens, vous parlez maintenant en style épistolaire, monsieur Picard, ricana le policier, puis reprenant le ton sérieux. Vous n'avez pas toujours agi comme vous parlez à présent. En humble et dévoué serviteur, monsieur Picard, quand vous cherchiez à empêcher l'exécution des ordres donnés par Monseigneur et que vous dépistiez les agents de monsieur le lieutenant de police. « M'est avis que ce n'était pas le devoir d'un très humble serviteur comme vous prétendez l'être. » Picard se mordait les lèvres jusqu'au sang. Tout ce que disait le policier était l'exacte vérité et il sentait bien que M. Marest pouvait savoir réellement quelque chose qu'on aurait caché au chevalier de Vaudrey. Le pauvre homme était terriblement mal à l'aise sous les regards narquois de l'agent qui ne le quittait plus des yeux. Mais tout à coup, les assistants firent un mouvement pour livrer passage au valet de chambre de M. de Lignières, lequel dit à Picard « Monseigneur m'a chargé de vous donner, de sa part, l'ordre de vous rendre immédiatement auprès de lui. Venez !» Le vieux serviteur demeurait bouche béante et comme stupéfié. « Eh bien, fit M. Marest, vous n'avez pas encore obéi aux ordres de Monseigneur ?» Tous les domestiques commençaient à croire que le policier en savait encore plus long qu'il n'en avait dit. Et quand Picard eut enfin retrouvé l'usage de ses facultés, et se fut mis à suivre le valet de chambre du comte, domestiques et femmes de chambre entourèrent l'agent de police avec l'intention de satisfaire leur curiosité concernant le sort réservé à Picard. Celui-ci avait maintenant la tête basse en suivant le valet de chambre. Arrivé à la porte du boudoir où se tenait la famille du lieutenant de police, le pauvre homme était affreusement pâle. Son front ruisselait de sueur froide et tous ses membres paraissaient agités d'un tremblement convulsif. Soudain, la porte s'ouvrit et le comte de Lignières parut, disant « Entrez, Picard, j'ai à vous parler, et cela devant la comtesse et le chevalier. » Le valet s'était incliné. Il n'osait plus lever les yeux sur son maître, dont l'air froid l'avait glacé un peu plus qu'il ne l'était déjà. Et s'est courbé en deux, qu'il fit en hésitant quelques pas dans le boudoir. Diane était assise sur un canapé. Le chevalier de Vaudreuil se tenait appuyé sur le dossier, tandis que Louise avait pris place sur un tabouret au pied de la comtesse. Monsieur de Lignières se tenait debout devant le vieux serviteur qui semblait ne pouvoir redresser son échine. « Je vous ai fait appeler, Picard, » commença le comte d'un ton presque sévère. « Afin de vous remercier. » Picard étouffa une exclamation de surprise et du coup se redressa d'un mouvement vigoureux des hanches. Il écarquillait ses yeux comme un homme qu'on vient d'éveiller en sursaut et qui ne se rend pas encore bien compte de ce qui se passe autour de lui. M. de Lignières ne parut pas s'apercevoir de ce jeu de physionomie et reprit. « J'ai à vous remercier, Picard, de vos longs et excellents services dans ma famille. »« Monseigneur, » essaya le valet en courbant le front et étendant respectueusement les mains vers son maître. « Vous avez donné, aussi bien à moi qu'au mien, la preuve d'une fidélité que je suis heureux de constater. » Prononçant ces mots, les regards du comte avaient cherché et rencontré ceux de Roger. « C'est donc une satisfaction pour moi, » poursuivit M. de Lignières, « de savoir que, bien que vous soyez d'un âge à vous reposer, Picard, vous vous disposiez à accompagner M. le chevalier dans le voyage qu'il va entreprendre. « Oh, monseigneur ne voudra pas que je... » Le pauvre homme bredouillait à présent, devinant que son maître voulait l'empêcher d'accompagner Roger. « Calmez-vous, Picard, » fit le comte avec bonté et en adoucissant la voix. « Je n'ai pas eu l'intention, en vous mandant ici, de vous affliger. Les longues années que vous avez passées dans notre famille vous y ont fait une place à part. » Picard passa rapidement la main sur son front, comme pour chasser certains souvenirs auxquels il redoutait que son maître ne fût bientôt appelé à faire allusion. Mais M. de Lignières eut un sourire. « Je ne veux pas, dit-il, que vous vous exposiez aux fatigues d'une campagne qui sera certainement rude. « Mais, monseigneur, j'ai encore du sang et des muscles, » fit Picard en tendant la jambe. « Je ne veux pas, dis-je, » poursuivit le comte, « que par dévouement, par affection pour Roger, vous soyez exposé à de périlleux hasards. Vous avez bien gagné votre retraite, Picard, et je puis même ajouter que dans ces derniers temps, vous avez déployé une activité, une vigueur. « Oh, pardon, pardon, » murmura le valet du bout de ses lèvres frémissantes. D'un geste, le comte l'interrompit. « Il n'est pas question de ce que vous supposez, Picard, » fit-il. « Je désire que vous soyez maintenant aussi paisible que vous avez pu être fougueux naguère et que désormais vous puissiez mener la vie calme après une existence tourmentée. » Le vieux serviteur regardait alternativement tous les témoins de cette scène pour tâcher d'avoir l'explication de la pensée du comte ou d'obtenir de l'un des assistants un sourire qui le rassura. « Vous allez donc, Picard, » continua M. de Lignières, « rester en France, à Paris, où je vous ai trouvé un emploi qui vous permettra. » Cette fois, Picard sentit un frisson lui parcourir les veines. Il se rappelait les paroles que lui avait dites M. Marest. C'était donc bien vrai? L'agent savait quelque chose des intentions du lieutenant de police? Cette pensée provoqua un si grand trouble dans les traits du valet que Diane s'en aperçut et en fit à voix basse la remarque à Roger. Mais déjà le comte poursuivait. « Qui vous permettra de vivre heureux, sans agitation. Un emploi sédentaire, enfin.
Sédentaire ? »
s'exclama Picard. « Oui, » fit le comte avec un fin sourire. « Comme il convient à un homme de votre âge, qui a des goûts simples, des affections sincères, et qui, je ne crains pas de le dire, a donné la preuve qu'il ne serait pas, à l'occasion, dépourvu de sentiments paternels pour ceux dont on lui confierait la garde. »
« La garde ?»
fit le valet en songeant au prisonnier de la Bastille.
« La garde ?»
Et il pensa.
« C'est bien ça. Monsieur Marest ne m'avait pas trompé. »
Le malheureux ne dissimulait plus son chagrin. Son désespoir se manifestait par la pâleur qui, de plus en plus, envahissait son visage et par les regards effarés qu'il adressait au chevalier, comme pour dire à celui-ci.
« Mon doux maître, venez donc à mon secours. Ne me laissez pas à Paris, alors que vous vous embarquerez pour le Nouveau Monde. »
Mais Roger n'avait pas l'air de comprendre. Alors, le valet prit courage et jugeant qu'il ne devait plus compter que sur lui-même pour défendre sa cause.
« Monseigneur, hasarda-t-il, daignez prendre pitié de votre serviteur soumis et repentant. N'obligez pas, celui qui a vécu depuis tant d'années auprès de mon Seigneur, de passer au service d'un autre, même au service de Sa Majesté. Non, mon Seigneur ne peut vouloir punir ainsi son fidèle Picard, son valet, son... Et le pauvre bonhomme, à bout d'émotion, porta vivement la main à ses yeux pour essuyer les grosses larmes qui coulaient de ses paupières. Puis reprenant d'une voix chevrotante, « Monseigneur, dit-il, aura compassion de moi, car je ne suis pas fait pour l'emploi que Monseigneur veut obtenir pour moi. Je n'aurai jamais le cœur de voir souffrir de pauvres diables enfermés dans d'horribles cellules et qui savent qu'ils n'en sortiront plus. Je ne pourrai pas assister à toutes les scènes tristes dont ils me donneront chaque jour le spectacle. Et je dois tout avouer à Monseigneur, si on m'obligeait à accepter cet emploi, eh bien, je crois, je suis sûre même, que j'aiderais autant que possible ces malheureux prisonniers à s'évader. Oui, Monseigneur, ajouta-t-il en frappant vigoureusement sur sa poitrine, j'ai là-dedans un cœur compatissant, un cœur qui ne pourrait entendre les plaintes et les gémissements des prisonniers. Et je deviendrai coupable, criminel. Je manquerai enfin à mon devoir, car, je le répète à Monseigneur, j'oublierai de fermer les portes des cachots. Je l'oublierai, j'en ai la conviction. Et alors, Monseigneur, c'est moi qu'il faudra qu'on enferme pour avoir trahi Sa Majesté, mon souverain maître. » Le reste de la phrase demeura sur les lèvres du valet. Le comte et Roger s'étaient regardés, et M. Deslignières s'écriait. « Ah ça, Picard, que signifie toute cette divagation? Pourquoi parlez-vous de prisonniers, de cachots, d'évasion que vous laisseriez s'accomplir, auxquels même vous prêteriez la main? Que veut dire tout cela ?» Puis, en présence de la stupéfaction qui se lisait sur la figure de Picard, « Je n'ai jamais songé à vous renvoyer. Je ne vous fais pas l'injure de vous croire incapable de continuer vos services. »« Auprès de vous, Monseigneur? Auprès de Madame la Comtesse, de Monsieur le Chevalier ?» Auprès de tous ceux que vous venez de nommer, Picard, auprès de tous à la fois. Alors, Monsieur le Chevalier ne part donc plus pour l'Amérique? Monsieur le Chevalier de Vaudreuil a pris un engagement formel et le tiendra religieusement. Mais le Chevalier de Vaudreuil reviendra en France. Et c'est alors que vous retrouverez toute la famille réunie et même quelque peu augmentée. Ces derniers mots provoquèrent l'intervention de Madame Deslignières. Diane se souleva à demi de dessus la causeuse où elle se tenait et s'adressant à son mari. « Monsieur le comte, dit-elle avec un sourire, faites cesser de grâce le quiproquo qui produit sur ce pauvre Picard une impression pénible. Dites bien à celui qui n'a jamais cessé d'être un bon et brave serviteur que nous l'empêchons de suivre Roger dans le Nouveau Monde parce que nous voulons le garder auprès de nous. » Puis, couvant d'un regard attendri la tête blonde de l'aveugle, elle continua avec un soupir. « Dites-lui surtout, monsieur le comte, que nous comptons sur son dévouement, sur ses attentions paternelles, sur son cœur, ce cœur si excellent, et que nous voulons lui confier la garde d'une personne qui a besoin qu'on l'entoure de toutes les sollicitudes, de toutes les tendresses. » Et se tournant vers le chevalier, « À votre tour aussi, Roger, dites à votre fidèle Picard, qui vous aime, que vous le cédez à cette autre personne et que vous espérez, que vous êtes certain même, qu'il reportera sur elle les sentiments affectueux qu'il avait pour vous, dévouement dont il a donné tant de preuves. » Le chevalier s'approcha alors du vieux serviteur. « Tu vois bien, Picard, dit-il avec douceur, que je ne puis faire autrement que de me joindre à Monsieur le comte Deslignières et à ma bien-aimée tante pour t'exhorter à te consoler de ne pas me suivre. Rappelle-toi, mon vieux et brave serviteur, qu'en te gardant ici, on te confie plus qu'un poste d'honneur devant l'ennemi. Un poste de confiance auprès de cette chère enfant. » Et tout en parlant d'une voix émue, Roger indiquait Louise qui tenait dans les siennes une des mains de la comtesse et la couvrait de baisers, comme font les enfants qui ont été pendant longtemps privés des caresses maternelles. Picard ne put retenir une exclamation de surprise, et pendant quelques secondes, il demeura immobile comme cloué sur place. Puis s'inclinant devant la comtesse, « Oh, vous êtes une bonne et sainte dame, madame la comtesse, » fit-il avec enthousiasme et en levant les yeux au ciel. « Vous êtes l'ange de charité que la Providence a placé sur le chemin de cette jeune fille. C'est bien, c'est beau, c'est sublime à vous d'avoir pour elle la tendresse d'une mère. » Diane ne s'était pas attendue à cette improvisation si émue dans sa forme comique. Ses yeux, à l'expression si mélancolique, se levèrent sur le visage du comte,
comme pour lui demander un mot qui ratifia l'expression dont s'était servi Picard pour qualifier le genre de sentiment qu'elle éprouvait pour l'aveugle. Le chevalier aussi attendait ce qu'allait dire le comte. Monsieur de Lignières tendit la main à Picard, et commandant à l'émotion qui le serrait à la gorge, il prononça. « Ce que vient de vous dire, madame la comtesse, est la preuve que j'ai oublié, car il faut bien que je vous en parle un peu, que j'ai oublié, dis-je, certaines incartades que vous a fait commettre votre grande affection pour le chevalier. « Oui, j'ai tout oublié, » ajouta-t-il en regardant Louise. Les paroles si respectueusement émues que vous avez adressées à la comtesse me donnent l'assurance que désormais vous serez heureux d'occuper le poste de confiance que nous vous donnons dans la famille. « Comptez sur moi, monseigneur, » dit Picard en courbant le front. « Je remercie monseigneur de sa clémence à mon égard. Vous devez surtout me remercier de faire de vous le gardien de cet enfant. Vous serez désormais son guide à elle et à son amie. « Mademoiselle Henriette ?» insinua Picard. « Oui, mademoiselle Henriette. Vous les accompagnerez lorsque ces deux jeunes filles devront se rendre, soit à l'hôtel du docteur Hébert, soit à Saint-Louis, puisque le docteur désire que sa petite aveugle soit l'objet d'un traitement spécial dans le service qu'il y dirige. Vous voyez, Picard, que nous ne vous considérons pas ici comme un valet ordinaire, mais bien comme un loyal et fidèle serviteur. Voilà qui est dit, vous ne partirez pas avec le chevalier. » Picard s'inclina en signe d'obéissance, mais cette fois on pouvait lire sur son visage la satisfaction qu'il éprouvait. Ses petits yeux pétillaient d'une façon particulière en regardant Roger. Et lorsque M. de Lignières lui eut, d'un geste, donné congé, il se retira à reculons tout en échangeant d'imperceptibles signes d'intelligence avec son jeune maître. Quand Picard reparut devant les domestiques et les agents qui avaient attendu son retour afin d'apprendre ce qui s'était passé entre le lieutenant de police et lui, ce fut M. Marest qui s'empressa de prendre la parole pour interpeller le vieux domestique. « Eh bien, monsieur Picard, » commença-t-il sur le ton du persiflage, « vous savez à présent à quoi vous en tenir. »« Oui, » répliqua Picard, « je sais à quoi m'en tenir, sur la valeur des renseignements que vous vous procurez. Ils valent autant que les précautions que vous savez prendre, afin que ceux que vous êtes chargés de poursuivre et d'arrêter ne vous glissent pas entre les jambes. » Les rieurs se mettaient maintenant du côté du vieux serviteur. Celui-ci voulut se venger d'un seul coup des ironies du policier. Et il reprit. « Monseigneur, mon maître et le vôtre, sait reconnaître ceux qui lui sont véritablement dévoués, ceux surtout sur lesquels il peut s'en rapporter du soin d'exécuter ponctuellement et avec habileté les ordres qu'il a donnés. C'est pourquoi il m'a chargé d'une véritable mission de confiance, en récompense de mes longs et loyaux services, autant dans la famille de Vaudrey que dans la famille de Lignières. » M. Marest regardait son interlocuteur, estimant qu'il avait subitement perdu l'esprit. Picard, après avoir dédaigneusement toisé son adversaire, rompit le cercle qui s'était formé autour de lui, et de l'air d'un homme qui va accomplir une importante mission, il s'éloigna gravement. Lorsqu'il eut produit son effet, il allongea le pas sous l'impulsion des idées qui bourdonnaient maintenant dans son cerveau. « Diable !» se disait-il, consultant sa montre dont la chaîne à breloques était dissimulée sous son gilet noir. « Je n'ai plus guère que deux petites heures devant moi, pour ce que je veux faire. « Pourvu, » continuait-il mentalement, « que je rencontre M. Hébert à son hôtel. » C'était en effet chez le docteur que courait en ce moment le valet de Roger de Vaudrey. Il avait ruminé une petite combinaison dont il voulait faire part au médecin et dont l'exécution ne pouvait souffrir de retard. Il était tout joyeux, le brave bonhomme, à l'idée de la surprise qu'il ménageait au docteur. Aussi fut-ce avec une certaine anxiété qu'il frappa à la porte de l'hôtel. M. Hébert était chez lui. « Ah, quel bonheur !» s'exclama Picard en plantant là le concierge, pour courir, avant même d'avoir été annoncé par le coup de cloche habituel, vers l'antichambre. « Vite !» dit-il au domestique. « Conduis-moi auprès de ton maître, Clampin. Ça presse, c'est fort important !» Il hésita un instant et continua. « C'est pour une consultation excessivement grave et qui ne peut se retarder. » Il monta sur les pas du domestique, si bien qu'il se trouva à la porte du cabinet de consultation en même temps que lui. « Monsieur le docteur, c'est moi, Picard » s'écria-t-il par l'entrebâillement de la porte. « Recevez-moi de grâce, monsieur le docteur. J'ai une importante communication à vous faire. »« Qu'est-il arrivé ?» demanda avec vivacité le médecin, en se levant pour aller au-devant de Picard. «
Il y a, monsieur le docteur, que je ne pars plus pour le Nouveau Monde, non, plus du tout, et que j'en suis enchantée, ravie, enthousiasmée. » Dans sa précipitation, le valet employait les premiers mots qui lui venaient à la bouche. Monsieur Hébert le regardait avec étonnement. « Voyons, mon ami, lui dit-il, calmez-vous. Avec votre air effaré, vous m'avez donné à penser que quelque chose de grave était survenu à l'hôtel de Lignières. Par exemple, que madame la comtesse ou notre petit aveugle se trouvait tout à coup gravement indisposée. Ah ben oui, elles sont heureuses et joyeuses au contraire. Oui, joyeuses, monsieur le docteur, que ça vous réjouit l'âme d'assister au spectacle de leur bonheur. Figurez-vous ce tableau. Madame la comtesse est à demi couchée sur le canapé. Mademoiselle Louise est assise à ses pieds. Monsieur Roger, mon maître, est appuyé sur le dossier du canapé. Il a l'air triste et heureux à la fois. Expliquez ça comme vous pourrez. Et le comte ? Demanda monsieur Hébert en interrompant. Monseigneur, il est superbe de grandeur magnifique, de générosité. Ah, tenez, monsieur le docteur, je me suis senti tout remué devant lui. Après ma trahison au profit de son neveu, il avait le droit de me chasser de sa présence, de me faire bâtonner par ses valets, de me faire jeter dans un cachot de la Bastille. Eh bien, il a été noble, clément, magnanime. Aussi, je me serais fait hacher pour lui, et je n'ai pas hésité un seul instant. Je me suis noblement sacrifié. J'ai accepté de rester auprès de lui, où je vivrais comme un coq en pâte, où je n'aurais rien à faire qu'à aimer la chère mademoiselle Louise, à l'accompagner pour venir chez vous, elle et l'autre, l'autre ange que vous et moi nous avons sauvé et que mon maître, le jeune, épousera en revenant d'Amérique. « Assez, Picard, assez !» commanda le docteur. « c'est juste, monsieur Hébert. Je parle comme un moulin à parole. C'est que, voyez-vous, je suis le plus heureux des serviteurs. J'ai le droit d'aimer mes maîtres, ce qui est rare, bien rare. » Le médecin avait saisi la vérité dans tout ce bavardage. « Mais enfin, dit-il, qu'est-ce qui t'amène » demanda-t-il. « Car jusqu'ici, tu ne m'as parlé que de toi. » « C'est assurément pas pour m'annoncer ce qui t'intéresse que tu es accouru en toute hâte. »« Non, c'est vrai, j'avais une idée, et je voulais vous la soumettre. »« Voyons ton idée, Picard, » fit le docteur en se rasseyant dans son fauteuil. « Ma foi, monsieur le docteur, je sais que monsieur le chevalier devait se mettre en route avec moi au plus tard dans une heure. Donc, en prenant un carrosse à peu près dans le même moment que mon jeune maître quitterait l'hôtel de Lignières, nous pourrions nous trouver, en même temps que monsieur le chevalier, dans le haut du faubourg Saint-Honoré, car monsieur Roger va prendre la route de Mantes, avec le petit détachement de cavaliers, dont il aura le commandement jusqu'au Havre de Grâce. Et si, mademoiselle Henriette... je comprends, mon ami, fit le docteur en se levant pour aller donner des ordres au valet de pied qui se trouvait dans l'antichambre. Au bout d'un instant, il revenait et disait à Picard, « Ton maître est-il informé de la démarche que tu fais en ce moment ?»« Je n'oserais l'affirmer, cependant... »« Quoi ?»« Quand je le saluais en quittant le boudoir de madame la comtesse, il m'a semblé que monsieur le chevalier me faisait certains petits signes. »« Bon, bon, je ne te retiens plus, Picard. Et si tu as quelque chose à faire, d'ici une heure... »« Non, monsieur le docteur, je n'aurai plus rien à faire de la journée. » Qu'à verser une larme, après avoir dit une dernière fois adieu à mon jeune maître, et à me réjouir ensuite du bonheur qui m'arrive. Car, voyez-vous, monsieur le docteur, si je suis enchantée de rester auprès de mademoiselle Henriette et de sa sœur, j'aurais été également enchantée de partir avec monsieur le chevalier. De sorte que j'ai de la joie et du chagrin en même temps. J'ai envie de rire et de pleurer. Ah, saperlipopette, je suis bien embarrassée de savoir à laquelle de ces deux impressions je dois m'abandonner. Le docteur n'avait pu s'empêcher de sourire en entendant le vieux valet monologuer de la sorte tout en faisant force gestes. « Allons, allons, mon vieux Picard, dit-il, je te donnerai bien gratuitement une consultation. Mais il n'y a pas de formule dans le codex pour le genre d'affection que tu es atteint. Il faut la conserver longtemps, cette affection, en partie double, mon ami, le plus longtemps que tu pourras, car je m'aperçois bien qu'elle ne finira qu'avec toi, mon bon Picard. » Puis il congédia Picard, qui, s'arrêtant à la porte, lui dit « Monsieur le chevalier se mettra en route dans une heure. Ne l'oubliez pas, monsieur Hébert. » Le valet parti, le docteur avait aussitôt donné l'ordre d'atteler son carrosse et avait en même temps fait prévenir Henriette qu'il désirait la voir.
La jeune fille se présentait quelques minutes plus tard dans le cabinet de M. Hébert, et celui-ci lui fit part de son intention de se faire accompagner par elle dans une visite qu'elle allait rendre à une famille pauvre.
« Ne suis-je pas toujours à vos ordres, monsieur ?» répondit Henriette.
« Eh bien, mon enfant, allez simplement passer votre mante, car nous ne tarderons pas à partir. » Henriette obéit. Tout en revêtissant sa mante et en ondulant sa chevelure, elle pensait à celui qui, à cette même heure, était déjà peut-être bien loin de Paris. Plongée dans ses réflexions, elle s'oubliait à rêver, au point que le docteur dut venir la chercher. « Je vous attends depuis au moins 5 minutes, mon enfant, et vous n'ignorez pas que je suis pressée. » Il prit Henriette par la main pour la conduire jusqu'à la voiture qui se trouvait déjà dans la cour. M. Hébert se pencha à la portière et donna des ordres au valet de pied. Le carrosse roula au grand trot des chevaux qui n'avaient assurément pas l'habitude d'être poussés de cette façon. En moins de 20 minutes, le carrosse gravissait la pente du faubourg Saint-Honoré. Henriette, qui regardait mélancoliquement à la portière, put voir un grand nombre de personnes échelonnées de chaque côté de la rue, sur les trottoirs et principalement à l'extrémité du faubourg. Elle ne donna aucune attention à la chose, et ce fut le docteur qui rompit le silence par ces mots.
« Regardez donc, Henriette, tout ce monde! Ne dirait-on pas qu'on attend le passage de Sa Majesté ?»
La jeune fille répondit.
« Effectivement, je n'ai jamais vu autant de monde réuni. »
Puis tout à coup, par un brusque mouvement, elle se rejeta au fond du véhicule, en portant vivement les deux mains sur ses yeux, comme pour éviter de voir quelque chose qui se passait dans la rue. Le docteur avait saisi le mouvement et compris.
« Vous vous souvenez d'être déjà venu dans ce quartier, mon enfant ? » dit-il.
« Hélas, monsieur, ce souvenir est moins pénible aujourd'hui. Cependant, je n'ai pas pu revoir sans souffrance ces rues que j'avais dû traverser au milieu des agents. Pauvre enfant, vous comprenez, monsieur le docteur, que je doive en ce moment éprouver une impression douloureuse. » Puis s'interrompant, « Je ne me suis pas informée, fit-elle, de l'endroit où vous vouliez me conduire. Vous m'avez parlé de vous accompagner et je n'avais qu'à vous obéir et à vous suivre. Cependant, monsieur le docteur, excusez-moi si j'ose vous interroger à ce sujet. » Et regardant le médecin avec une expression de tristesse. « Où allons-nous ainsi? Pourquoi me conduisez-vous dans ce quartier où j'ai passé de si douloureux instants? Peut-être est-il nécessaire que je sois ramenée dans la petite chambre que j'habitais lorsque... »
Des larmes lui venaient aux yeux. Le docteur Hébert lui imposa doucement silence.
« Je ne veux pas que vous vous abandonniez ainsi au chagrin, mon enfant. En vous conduisant de ce quartier, j'avais un but, il est vrai. J'en avais même deux. Celui de me faire me retrouver en présence de la dame qui me donnait de l'ouvrage, sans doute, et à laquelle Monsieur le chevalier de Vaudrey m'avait présenté. Chez qui, enfin, Madame la Comtesse avait daigné venir rendre visite à la pauvre ouvrière? Avez-vous un motif, monsieur le docteur, pour me conduire chez Madame d'Hervigny? »
Son visage s'assombrissait et l'on pouvait lire sur ses traits une expression de souffrance. Elle ne pouvait s'expliquer pourquoi, en la mettant de nouveau en présence de cette dame qu'il avait vue entraînée par les agents et s'était montrée si sévère envers elle, on l'exposait à rougir devant Madame d'Hervigny.
Monsieur Hébert ne voulut pas la laisser plus longtemps sous cette pénible impression, et sans toutefois lui dévoiler le mystère de cette promenade dans les hauteurs du faubourg Saint-Honoré, il lui dit « Soyez persuadé, mon enfant, que je n'ai jamais eu, en venant ici, la pensée de vous soumettre à une épreuve désagréable. » « Non, reprit-il de ce ton paternel qu'il employait souvent avec ses malades, vous ne subirez aucune offense, tant que je vous accompagnerai. Ayez donc en moi toujours la même confiance. »
Henriette le remercia d'un regard. En ce moment, le carrosse s'arrêtait.
« Ah, monsieur !» s'écria Henriette. « C'est ici qu'habite Madame d'Hervigny. Vous pouvez voir au second étage l'écriteau qui porte son nom. »
Puis, regardant par la portière.
« Oui, oui, je reconnais la porte. C'est bien ici. »
Monsieur Hébert avait mis pied à terre et aidait la jeune fille à descendre du véhicule. Il l'entraîna doucement, lui faisant traverser le corridor jusqu'au bas de l'escalier. Henriette avait ramené les volants de sa mante jusque sur les yeux pour ne pas être reconnue par la portière et les locataires du rez-de-chaussée, lesquels avaient été témoins de la scène d'arrestation de la jeune fille par les agents du lieutenant de police.
« Où allez-vous ? » cria par le vasistas la portière, voyant les deux personnes s'engager dans l'escalier.
« Chez Madame d'Hervigny, » répondit le docteur. La jeune fille ne put se défendre d'un tressaillement et sa main trembla en s'appuyant sur le bras de M. Hébert. On monta ainsi jusqu'au second étage, sans échanger une parole. Arrivé sur le palier de l'appartement de la couturière, le docteur sonna. Ce fut Mme d'Hervigny elle-même qui vint ouvrir. En apercevant la jeune fille, elle se pencha pour voir le visage que celle-ci essayait de tenir caché en baissant la tête. « Madame, commença M. Hébert, je viens vous rendre une petite visite à laquelle vous vous attendiez sans doute fort peu. » Mme d'Hervigny échangea un regard avec son interlocuteur et s'effaçant pour livrer passage. « Entrez, monsieur et mademoiselle, » dit-elle simplement. Henriette suivait le docteur, et l'émotion l'envahissait, plus violente et plus douloureuse, maintenant qu'elle se retrouvait dans ce même atelier où elle était venue accompagnée par le chevalier de Vaudrey. Son cœur battait avec force, comme il avait battu ce jour-là. « Qu'est-ce qui me procure l'honneur de votre visite, monsieur ?» dit Mme d'Hervigny, s'adressant au médecin. « Je suis le docteur Hébert, madame. Vous me connaissez peut-être de nom. Mais, s'empressa-t-il d'ajouter, je crois que vous connaissez mieux encore mademoiselle. « Henriette ? » fit la couturière très surprise. Se voyant reconnue, la jeune fille releva vivement la mante qui lui cachait en partie le visage. « Oui, madame d'Hervigny, répondit Henriette, c'est moi, votre ancienne ouvrière, que, sur la recommandation de monsieur le chevalier de Vaudrey, vous aviez accueillie avec bonté. « Ah, c'est vous !» « Et j'ai tenu, madame, prononça monsieur Hébert, prenant la parole à son tour. « À ce que mademoiselle Henriette Gérard m'accompagna ici, afin que vous sachiez que celle que vous avez pu croire coupable n'avait pas mérité le terrible châtiment qu'on voulait lui infliger. Je veux que vous sachiez que monsieur le lieutenant de police a reconnu son erreur puisque... « Puisque, continua-t-il en élevant la voix, mademoiselle Henriette est aujourd'hui libre, comme vous voyez. « Je voulais vous dire, ajouta-t-il après un court silence, que je professe pour elle assez d'affection et d'estime pour l'avoir priée de me faire l'honneur de m'accepter pour cavalier. » Madame d'Hervigny parut avoir un moment d'hésitation. Puis tendant les deux mains à son ancienne ouvrière, « Mademoiselle Henriette, dit-elle, je suis heureuse de ce que m'annonce l'illustre savant qui vous a prise sous sa protection. » Et changeant de ton, « Est-ce que vous voudriez reprendre de l'ouvrage ? La petite chambre que vous occupiez est toujours libre, et je serai heureuse, le cas échéant, de vous avoir une seconde fois pour locataire. » Henriette, demeurant interdite, ce fut le docteur Hébert qui se chargea de la réponse. « Madame, dit-il, votre ancienne ouvrière est désormais à l'abri du besoin. Elle devra se consacrer tout entière à se préparer à l'existence nouvelle qui va s'ouvrir devant elle. Et, poursuivit le docteur, si je l'ai amenée auprès de vous, c'est parce qu'elle vous devait des remerciements pour l'accueil si bienveillant que vous lui aviez fait, tout d'abord. » Madame d'Hervigny se mordit les lèvres. Les paroles de M. Hébert affectaient une douce ironie dont elle saisissait la propos. « Je suis heureuse, répondit-elle, de m'être trompée sur le compte de mademoiselle. J'avais supposé que les mesures de rigueur étaient justifiées. « Oh, madame, s'écria Henriette, vous n'avez pas à vous justifier de vous être montrée sévère dans le jugement que vous avez porté sur moi. Tout le monde, à votre place, eût agi de même. Mais aujourd'hui que la lumière s'est faite éclatante sur votre conduite, mademoiselle, répliqua madame d'Hervigny, il est de mon devoir de vous rendre l'estime que tout d'abord vous aviez su m'inspirer. Voulez-vous oublier, mademoiselle Henriette ? Pour toute réponse, la jeune fille posa timidement ses mains dans celles que lui tendait madame d'Hervigny. Au surplus, leur attention fut à ce moment sollicitée par un grand tapage qui se faisait dans la rue, presque sous les croisées de la maison. Le docteur Hébert, feignant la surprise, s'était précipité vers la fenêtre, dont il releva les vitres en s'écriant. « Il y a un attroupement considérable devant la maison !»« Ah, je sais !» fit madame d'Hervigny. « On attend, pour les acclamer au passage, les volontaires qui vont s'embarquer au Havre de Grâce pour l'Amérique. »« Des volontaires ?» murmura Henriette en portant la main à son cœur. « Venez donc les voir défiler !» dit le docteur. Et il ajouta, « Ce sont de braves cœurs qui ont répondu à l'appel du général Lafayette et qui vont combattre pour l'indépendance du peuple américain. « Ah, les voici qui arrivent ! C'est une troupe de cavaliers qui ont fort bonne mine, ma foi !» Henriette s'approcha alors de la croisée et regarda. Dans la rue, la population du quartier faisait le plus sympathique accueil aux volontaires. On les avait d'abord accompagnés, puis entourés, de telle sorte que les chevaux ne pouvaient plus avancer que difficilement. Bientôt même, les cavaliers durent les arrêter tout à fait car 100 mains avaient saisi les brides, tandis que de partout on criait « Veuillez mettre pied à terre et permettez que nous fraternisions avec vous !» Le spectacle prit alors des proportions inusitées. Les boutiquiers du quartier avaient voulu avoir chacun chez lui un de ceux qui partaient pour guerroyer contre les Anglais. Force fut aux volontaires d'accepter de trinquer à la délivrance de l'Amérique, à Washington, à Lafayette, au succès des armes françaises. En présence d'une manifestation aussi sympathique, ces volontaires eussent eu bien mauvaise grâce de ne pas retarder de quelques minutes leur départ. Les officiers leur donnèrent l'exemple en descendant les premiers de cheval. Cet exemple fut aussitôt suivi par tous les hommes de la troupe, tandis que les passants s'offraient à tenir les chevaux pendant ce temps. Cette effervescence dans la population du quartier Saint-Honoré n'était pas un incident isolé. Tout Paris, avons-nous dit, s'intéressait à la grande cause qu'avait prise en main le patriote du Nouveau Monde, le général Washington. Il y avait déjà dans les masses comme le sentiment d'une émancipation prochaine, et ce peuple français, en s'enthousiasmant pour ses populations qui cherchaient à devenir une nation forte, grande et libre, semblait préludier lui-même aux grandes revendications qu'il exercerait bientôt. Parmi ces cavaliers qui avaient mis pied à terre, il s'en trouva un qui, remerciant tous ceux qui s'empressaient autour de lui, ne détachait pas ses regards des croisées de Madame d'Hervigny. Il semblait absorbé par quelques souvenirs et paraissait indifférent aux acclamations qui s'élevaient de toutes parts. Mais bientôt, du milieu des manifestants, un homme s'élança, les bras tendus vers le jeune cavalier. « Oh, mon maître, mon cher maître !» s'écria-t-il. « Je vous revois une dernière fois, et j'ai voulu vous baiser les mains avant de me séparer de vous. » « Picard ? » fit le cavalier. « J'avais donc bien compris les signes que tu me faisais en te retirant de l'hôtel du comte de Lignières ?»« Excellent, Picard » répéta-t-il en serrant affectueusement la main du vieux serviteur. Mais au même moment, ses regards levés vers l'appartement de Madame d'Hervigny se croisèrent avec les regards d'Henriette. La jeune fille avait fait un effort surhumain pour ne pas défaillir. Mais déjà le chevalier de Vaudrey avait quitté les étriers et se précipitait dans le corridor. Il n'avait pu résister au désir de voir la fiancée de son cœur avant de partir. Le docteur Hébert était allé au-devant de lui, tandis que Picard, simulant la surprise, suivait son jeune maître avec force geste et en s'écriant « Ah, mon Dieu, quel hasard! Quel heureux hasard! C'est bien extraordinaire! Il y a décidément un Dieu pour les amoureux !» Roger, en se trouvant en présence du docteur, s'était arrêté subitement, tout interdit, et presque honteux d'avoir manqué à la parole qu'il avait donnée à M. Hébert de ne pas, avant de partir, chercher à revoir Henriette. Ce fut donc le docteur lui-même qui se chargea de le rassurer. « Monsieur le chevalier, dit-il du ton le plus paternel, vous ne m'en voudrez pas, je suppose, d'aller ainsi au-devant de vos désirs en publiant une nouvelle qui ne peut qu'être fort agréable à toutes les personnes qui connaissent Mademoiselle Henriette Gérard. « Oui, oui, marmottait Picard, nous avons le droit de nous réjouir, nous tous qui connaissons Mademoiselle Henriette. »« Je suis donc venu ici, reprit le docteur, profitant de ce que vous deviez passer dans le quartier avec le petit escadron dont vous avez le commandement. J'avais deux motifs pour cela. Le premier, vous l'avez deviné, je le vois à vos regards qui ne peuvent se détacher du visage d'Henriette. « Mais c'est le second motif, interrompit Picard à voix basse. C'est celui-là qui est le plus important. » Sans faire attention à ce que disait le vieux domestique, M. Hébert s'adressa à Madame d'Hervigny. « J'ai tenu, madame, lui dit-il, à ce que vous qui aviez accueilli Henriette, vous soyez une des premières personnes à apprendre son bonheur, à vous féliciter de l'heureux dénouement qui va se produire pour elle. « Mademoiselle a retrouvé son amie, sa sœur, demanda la couturière. « Mieux que cela, Madame d'Hervigny. Non seulement Henriette a retrouvé la pauvre chère aveugle dont elle avait été brusquement séparée, mais elle a trouvé en même temps une famille qui l'a adoptée, qui l'aimera, qui sera pour elle pleine de sollicitude, qui lui fera oublier les heures cruelles d'épreuve et la fera attendre avec patience le retour du chevalier. « Monsieur le chevalier part donc ?» s'informa Madame d'Hervigny. « Oui, madame, répondit Roger, et avec l'aide de la Providence, j'espère revenir bientôt, et cette fois pour ne plus me séparer d'Henriette. » En entendant ces mots prononcés d'une voix émue, la jeune fille avait baissé les yeux et ses joues se couvrirent d'une vive rougeur. « Nous n'avons plus besoin de dissimuler notre bonheur, » ajouta le chevalier. « À mon retour d'Amérique, je serai l'époux de Mademoiselle Henriette Gérard, et cela du consentement de M. de Lignières, mon oncle. »
Madame d'Hervigny saisit alors la main de la jeune fille et lui dit avec effusion « Je suis bien heureuse, mademoiselle, d'apprendre cette excellente nouvelle. J'ai maintenant la conviction que je ne m'étais pas trompée en vous jugeant, à première vue, comme une honnête et vertueuse jeune fille. » Puis elle continua d'une voix émue. « Excusez-moi, mademoiselle Henriette, d'avoir, comme tout le monde ici, du reste, apprécié sévèrement. » « Hélas, madame, interrompit Henriette, toutes les apparences n'étaient-elles pas contre moi ?» À ce moment, le trompette du petit détachement sonna le boutecel. C'était le signal du départ. Picard courut à la croisée. Dans la rue, les cavaliers enfourchaient les chevaux tenus en bride par les curieux. Toutes les personnes qui se trouvaient là voulurent serrer les mains des volontaires. « On n'attend plus que vous, mon maître !» fit Picard en se tournant vers les chevaliers. Rocher de Vaudrey n'articulait pas un mot, mais son regard allant alternativement du visage du médecin à celui d'Henriette disait la suprême recommandation qu'il adressait à M. Hébert. Il salua Mme d'Hervigny. Puis s'inclinant devant sa fiancée, il appuya longuement ses lèvres sur la main qu'elle lui avait abandonnée. « Allons, allons !» murmurait Picard en essuyant du bout du doigt ses yeux humides. « Soyons hommes, que diable ! Soyons !» Et lorsque la petite troupe se fut remise en marche, accompagnée par la foule qui poussait des acclamations et des vivats, le chevalier se retourna pour envoyer de la main un dernier adieu à Henriette qui, pâle et le cœur et les yeux pleins de larmes, se tenait à la fenêtre entre le docteur et Madame d'Hervigny. Et aussi longtemps que les deux fiancés purent s'apercevoir, ils échangèrent les mêmes marques d'affection et les mêmes adieux.